Charité de femmes. J'allais de Paris à Nice pour les fêtes du carnaval en février 1881. Je m'arrêtais à Toulon afin de rendre visite à mon ami Georges de Baltine qui avait loué pour la saison la châsse d'une des îles situées en face d'Hyères, celle de Port-Cros, et qui m'y avait invité. Je dois avouer qu'en entreprenant cette expédition, je n'emportais mon fusil que par décence. Je cédais surtout au désir de faire un tour, projeté depuis longtemps, dans ces îles trop peu connues que les anciens appelaient les stucades, les rangées en ligne, et les moines du Moyen-Âge, les îles d'or, sans doute à cause du mica dont elles scintillent, et qui, sous le soleil couchant, les revêt d'un reflet de métal jaune. Que de fois, des hauteurs d'hier, je les avais vus profiler, entre le ciel d'un bleu pâle et la mer d'un bleu sombre, leurs longues lignes boisées et leurs rocheuses falaises. Que de fois, gagnant l'Italie ou la Grèce, j'avais passé en paquebot entre ces falaises et la côte, assez près pour apercevoir les profondes vallées de Porquerolles et de Port-Cros, foisonnantes de pins d'Alep, le rocher dénudé de Bago et les landes sauvages du Titan. Une nuit, en particulier, j'avais respiré en les longeant un si violent et si doux parfum de plantes aromatiques, cette odeur du maquis bien connue de tous ceux qui ont approché la Corse par de certaines brises, que cet arôme m'avait hanté des jours et des jours. Comment aurais-je dit non à un aimable camarade qui m'offrait un prétexte de satisfaire commodément une curiosité éveillée depuis des années? Comme nous avons, nous autres Français, le génie de rendre presque inabordables les plus beaux coins de notre beau pays, quitte à nous extasier sur des sites étrangers qui ne valent pas les nôtres. Cette visite, qui serait très aisée s'il existait un service entre ces îles et la plage même d'hier, représente un véritable voyage. Il faut de toute nécessité passer la nuit à Toulon et se lever à 6 heures, pour prendre à 7 un petit vapeur qui arrive à Port-Cros vers midi, après avoir touché barre à Porquerolles. Encore ces bateaux, ils sont deux et qui alternent l'un avec l'autre, ne font-ils ce service que 2 fois par semaine. Ils partent de ce quai de la Darse vieille, si chaud à l'œil par les après-midi de soleil, et que décorent les 2 héroïques Atlantes de Puget, tordant sous le balcon qu'ils supportent leur brutale et douloureuse musculature de cariatide. Quand j'arrivais sur ce quai, par ce matin de février, les étoiles emplissaient encore le ciel. L'aube pointait à peine et le paysage du port était noyé dans une pénombre de crépuscule qui donnait, aux formes des navires à l'ancre sur l'eau ardoisée de cette vaste rade, un aspect fantomatique. Cependant, les cafés déjà ouverts flamboyaient de gaz et sur les dalles de ce quai où n'arrivent pas les voitures, c'était un piétinement hâtif de passants pressés. Officiers et matelots, soldats de marine et employés, bateliers et mousses allaient et venaient, la plupart en uniforme, frissonnant du réveil et marchant vite à cause du froid qui me gagnait moi-même. J'étais arrivé de Paris, la veille, par une de ces après-midi de l'hiver provençal, tiède comme un jour de printemps. Une fois de plus, malgré ma vieille expérience de ce climat contrasté et de ses surprises, j'avais pris pour mon excursion un paletot mince sous lequel je grelottais, et je regardais, non sans appréhension, le vapeur où je devais passer les 5 heures de la traversée. C'était un bateau de 60 tonnes, peut-être, qui portait la trace partout d'une simplicité primitive et utilitaire. La cabine réservée aux passagers consistait en une soupente ménagée dans l'entrepont, garnie de banquettes en bois, basse de plafond, vitrée dans toute son étendue et sans trace de chauffage. À peine si un fourneau de fonte, installé en plein air, rougeoyait dans l'angle de l'escalier du gaillard d'avant. Un cuisinier, qu'à sa carrure on reconnaissait pour un simple matelot, y préparait le déjeuner de l'équipage dans une casserole de cuivre encrassée et d'où s'échappait un violent fumet d'ail. Trois autres marins, un mécanicien avec son aide et un mousse, composaient cet équipage. Ils vaquaient sans se hâter, avec un flegme méridional, aux préparatifs du départ, lesquels consistaient à entasser dans la cale, au petit bonheur, les caisses et les paniers destinés aux quelques 200 habitants de Porquerolles et de Porquerolles. Des femmes arrivaient, apportant des paquets, avec des recommandations verbales qu'elles formulaient en patois. Les hommes répondaient d'eux-mêmes et interrompaient leur travail pour causer. Le caractère bon enfant de cette diligence de mère se rehaussait de pittoresque à cause des types fortement marqués de ces gars. Fils du pays, ils avaient tous plus ou moins, sur leur visage, dans leurs yeux trop noirs, dans leur teint basané, dans leurs traits robustes, cette hérédité sarrasine, si reconnaissable sur cette côte où les montagnes s'appellent encore les Maures et les Maurettes, par souvenir des pirates d'Afrique et de leur longue invasion. Mais ces descendants des anciens corsaires paraissaient n'avoir de terrible que le masque. Ils bavardaient, riaient, gesticulaient, musaient, sous la surveillance du capitaine, un Hercule de 50 ans, avec des yeux bleus celui-là, dans un visage très rouge, qui n'avait comme insigne de son grade qu'une casquette de drap noir garnie de passementerie. Sauf ce détail, il était vêtu comme ses hommes. Des houseaux de grosse toile bleue protégeaient son pantalon de drap. Il mettait la main à la besogne comme les autres, sans morgue et sans fausse pose, empoignant un paquet, calant une caisse, parlementant pour une commission personnelle, avec l'accompagnement obligé des « pekeir » et des « pichoun ». Cette lenteur des préparatifs, tout le chargement s'amoncelait en tas sur le pont. L'absence de fumée à la cime du tuyau de la cheminée, le peu d'empressement des passagers, en visitant la cabine, j'avais bien vu des plaides roulées, deux nécessaires de voyage, une boîte à fusils, sans doute le bagage d'un autre invité de Baltine, mais personne même pour les garder. Tout rendait invraisemblable la ponctualité du départ à 7 heures. J'appréhendais de me voir pris dans une de ces combinaisons provençales qui dénoncent, mieux que le soleil et que les oliviers, l'approche de l'Italie, et je m'en plaignis au capitaine. « La perle ne partira pas à l'heure aujourd'hui ?» demandai-je. « Vous n'avez donc pas lu l'affiche que nous avons mise à l'arrière ?» me répondit-il. « Nous attendons les soldats de Madagascar que nous devons transporter au sanatorium de Porquerolles. » « Mais quand l'avez-vous mise, cette affiche ?» fit une voix d'homme derrière moi, furieuse. « Il y a une demi-heure, je vous ai vu la mettre, j'étais là. » Je me retournai, et je reconnus un personnage que j'avais remarqué tout à l'heure, en train de se promener le long du quai. Dans l'ombre, j'avais mal distingué son costume, qui me fit deviner aussitôt que l'étui à fusil devait lui appartenir. C'était un beau garçon, de 30 ans environ, très robuste, dont les gros membres étaient encore grossis par un ulster de chasse aux poches compliquées, à l'étoffe rugueuse, presque velue, visiblement coupée en Angleterre. Sa casquette, de la même laine, ses gros gants tricotés, ses fortes bottines jaunes, achevaient sa physionomie de chasseur élégant et solide. Il offrait le type accompli d'une sorte d'individu que je connais assez bien. l'homme riche, à fort tempérament, qui a résolu son existence par la joie physique de l'exercice violent, mais pris dans d'excellentes conditions de confortable. Beaucoup de nobles modernes sont ainsi en France, depuis que la diminution des fortunes, inévitable résultat du code civil et de l'égalité des partages, les a contraints de redevenir des ruraux. Ces hommes-là, d'ordinaire, ont passé par le régiment. Ils ont été officiers de cavalerie jusqu'à leur mariage, puis ils ont donné leur démission pour vivre sur leurs terres, d'une vie passablement brutale, très bornée, mais saine. Les plus raffinés, ceux à qui un reste d'opulence permet l'appartement à Paris, ne voient guère dans la grande ville qu'une occasion de chasser plusieurs fois la semaine, de monter à cheval tous les jours et de déguster au club, au restaurant ou chez des amis une cuisine supérieure. Cela fait un caractère qui n'a pas encore été bien étudié, où les préjugés nobiliaires se heurtent à de réelles traditions aristocratiques. Une mixture bizarre de religion, de dévotion quelquefois, et de matérialisme, d'activité virile et d'enfantillage. Il y a du paysan dans ces vigoureux gaillards très voisins de la terre, et comme les paysans, ils sont également capables de toutes les simplicités et de toutes les ruses. Leur apparente rondeur peut cacher le plus âpre égoïsme. J'allais éprouver que celui-ci ne réalisait que trop cette loi commune aux personnalités très pénétrées d'animalisme. On ne vit pas si près de la bête sans finir par lui ressembler. « Oui, insista-t-il, vous avez affiché le changement ce matin, je l'ai vu, mais... » Il se tournait vers moi sans prendre la peine de baisser le ton. « Ces méridionaux ne sont pas capables d'une chose bien faite. C'est un à peu près éternel. Et puis ce gouvernement qui a ses bateaux de guerre là dans le port et qui va confier ses malades à un rafio comme celui-ci. Ce sera quelque manœuvre électorale. Monsieur, continua-t-il, permettez-moi de me présenter moi-même. Vous êtes sans doute... » Et il me dit mon nom. Puis sur ma réponse affirmative, « Je sais par Baltine que vous allez chasser chez lui. » « Moi, monsieur, je suis le comte de Maigret Fajac. Baltine prétend avoir à Port-Cros la grande et la petite outarde, le flamand, des passages de chevalier et de bécasso, du merle rose, du faisan de Corse et du perdreau d'Algérie. Nous verrons bien. S'il m'a dérangé de Monte-Carlo et du tir au pigeon pour me faire fusiller des grives, je ne lui pardonne pas. « Mais voici Madame de Maigret-Fajac. Je vais vous présenter à elle. Nous étions ici à 7 heures moins le quart, heure militaire. Quand elle a su le retard, elle est allée à l'église voir si elle aurait une messe. Pour une femme, 5 heures de mer, c'est un voyage dangereux. Elle trouve naturel de déranger le bon Dieu pour ça. Prenez-vous un cigare ?» Tout en me tendant un des noirs havanes qu'il fumait ainsi à jeun, avec une liberté qui prouvait l'énergie de son estomac et son absence de nerfs, mon futur compagnon de chasse me faisait faire sur le quai une 20aine de pas, au-devant d'une jeune femme qui débouchait d'une rue transversale, accompagnée de sa camériste. J'ai vu dans ma vie quelques ménages d'époux mal appariés. J'en ai rarement rencontré un où l'antipathie de nature fut plus évidente. Madame de Maigret avait dans tout son être autant de délicatesse, presque de maladivité, que son mari avait de robustesse, presque de grossièreté. Sous l'épaisseur de la lourde jaquette d'astrakhan, par ce froid matin d'hiver, on devinait un corps gracile et frêle, et sous son double voile, un visage mince aux traits menus, avec un teint sans éclat, où brillaient des yeux admirables, d'un bleu sombre à en paraître violet. C'était de ses yeux qu'il suffit d'avoir rencontré pour éprouver l'envie de protéger l'âme trop sensible qui vous regarde à travers ses prunelles tendres et farouches. Autant les pieds et les mains du comte étaient de larges, de solides outils de marche et de prise, autant les pieds et les mains de la comtesse, même dans les grosses bottines de voyage et sous les gants de forte peau, donnait l'impression de jolis bibelots fragiles. Tandis que l'air humide et glacé de ce matin fouettait le sang de l'athlète roux qu'était le mari, visiblement la jeune femme tremblait de froid malgré sa marche. De s'être levée si tôt l'avait déjà épuisée pour tout le jour. Ce n'était pas, je l'aurais gagé, contre les périls du voyage en mer qu'elle était allée prier Dieu. Elle lui avait bien plutôt demandé la force de cacher son malaise à son seigneur et maître, afin de ne pas lui gâter un plaisir qui était un supplice pour elle. Et le plus doux génie féminin frémissait dans l'accent soumis avec lequel, une fois la présentation faite, elle interrogea ce terrible mari. « Vous n'avez pas eu froid, Alfred ? Je suis restée un peu plus longtemps, parce qu'on nous a mal renseignés d'abord. Nous avons dû aller à deux églises. Enfin, nous avons eu notre messe. Mais qu'attend-on pour partir ?»«
Je le sais maintenant, » dit Monsieur de Maigret d'un ton singulièrement rude. « Des rapatriés de Madagascar que nous déposons à un sanatorium. »
Était-ce une illusion ? Il me sembla qu'il avait donné à cette phrase, en la prononçant, presque une allure agressive. Oui, un reproche, direct et personnel, avait passé dans sa voix. Et il me sembla aussi qu'à ces mots, pourtant bien simples, les paupières de la jeune femme avaient battu nerveusement. Ce ne fut qu'une nuance, et que j'aurais sans doute oublié, si ce premier indice ne s'était éclairé depuis d'un jour trop significatif. Mais déjà nous avions commencé de marcher tous les trois le long du quai, où le gaz s'éteignait maintenant, et nous causions, comme des Parisiens qui se tâtent les uns les autres, qui se cherchent des amis communs, afin d'avoir un prétexte à satisfaire la passion nationale pour l'anecdote et la critique. Cette épreuve ne trompe guère. Elle permet de constater très vite le degré d'esprit et de bienveillance de celui et de celle avec qui on cause ainsi. Je n'eus pas de peine à discerner, là encore, l'antagonisme foncier des deux époux. La comtesse déployait autant de grâce indulgente à louer les gens que son époux prenait d'âpre plaisir à en médire. En moins d'une demi-heure, celui-ci m'avait déjà conté une dizaine de ces histoires, d'ailleurs toutes connues, qui courent les cercles et les salons à Paris, et qui, toutes fausses ou faussées, ramènent sans cesse en scène les mêmes personnes. Quatre ou cinq vieilles drôlesses, titrées ou millionnaires, et un nombre égal de jeunes ou de vieux viveurs, dont on finit par être lassé au point de ne plus entendre leur nom sans avoir envie de dire, comme l'autre, à l'époque de l'engouement pour une noble figure, trop exaltée puis trop décriée, « Ce qui me console de mourir, c'est que je n'entendrai plus parler du grand français. » Je voyais distinctement Alice de Maigret souffrir de cette vulgarité. Elle avait, quand elle causait, une voix à la ressemblance de son visage, frêle, timide et modeste, avec des passages comme voilés à de certains moments. Je n'ai plus l'âge, hélas, où une inconnue de la veille prend dans notre cœur, en quelques instants, une place irremplaçable. Mais, en allant et venant sur cette marge de quai, je me disais « Quelle amie délicieuse ferait cette jeune femme ! Quelle cousine ! Quelle sœur surtout ! Comme on aimerait à lui demander conseil, à venir auprès d'elle quand on serait malheureux, à se faire consoler par elle du mal que d'autres nous auraient fait. Si elle est vraiment ce qu'annoncent ses yeux, ses manières, sa voix, on n'a jamais même osé l'aimer !»
Pourquoi a-t-elle épousé ce soudard? Sans doute elle a obéi à quelque convenance de famille. Les femmes de cette race trop tendre, les Cordelia, en sont toutes là. Elles sont plus filles qu'amantes, plus mères qu'épouses. À 18 ans, un désir de leurs parents leur fait sacrifier leur vie entière. À 40 ans, elles sont les esclaves de leurs enfants, qui régulièrement leur brisent le cœur. Mais d'après ce que celle-ci vient de dire, elle n'a pas d'enfant. Et c'est tant mieux. Si elle en avait, que je la plaindrais de les avoir eus d'un tel père. J'en étais là de mes réflexions, dont celle qui en était l'objet ne se doutait guère, quand plusieurs coups de cloche venus de notre bateau nous firent nous retourner. Nous aperçûmes le capitaine qui, debout à l'arrière, agitait vigoureusement un bourdon de bronze destiné à rallier l'équipage et les passagers. « 8h15, dit Maigret en regardant sa montre. « Si avec cela nous traînons à Porquerolles pour débarquer nos malades, nous ne serons pas chez Baltine avant 3h de l'après-midi. Et où déjeunerons-nous? Franchement, quand on invite des amis à des parties de ce genre, on a un yacht à soi pour les venir prendre. » « Nous arriverons peut-être plus tôt, » dit la comtesse. « La mer est comme de l'huile, regardez. » « Et les rapatriés me paraissent bien peu nombreux, » insistai-je. « Comment ? » reprit Maigret. « C'est pour ces 4 malheureux qu'on nous a fait attendre 2 heures. »« Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? » répondit le capitaine avec cette sérénité du fonctionnaire qui exécute sa consigne, si particulière à notre pays. « Nous sommes subventionnés par l'État. Nous devons prendre ses ordres. » 2. Il n'y avait en effet sur le pont, lorsque nous y montâmes, pas plus de 4 soldats. 2 appartenaient à l'artillerie, 1 aux chasseurs, le dernier à une compagnie de tirailleurs indigènes. C'était un homme de sang nègre ou kabyle, si épuisé par la fièvre que le noir de sa peau en paraissait vert. Tous 4 étaient affreusement maigres, avec des épaules aiguës, des joues rentrées, des dents longues sous des lèvres décolorées, et leurs yeux brillaient de cet éclat qui dénonce la longue intoxication intérieure. Les 3 blancs avaient, eux aussi, un teint si verdâtre qu'ils ne se distinguaient de leurs compagnons que par la coupe du visage et par la forme des lèvres. Les capotes délabrées, les képis déformés, la repoussante malpropreté des basanes et des chaussures, l'absence de linge, trahissaient chez ces malheureux l'incurie radicale du troupier qui a trop pâti entre la tente et l'hôpital. Il se laisse aller et perd cette coquetterie de l'uniforme sans laquelle il n'y a pas d'armée. La maladie avait brisé en ceci le ressort militaire. Elle en avait fait de pauvres animaux, recrues de lassitude, et avec un unique désir de souffrir moins. Ils se tenaient tous 4 contre le bastingage, assis sur leur bissac et sans prendre garde aux curiosités éveillées autour d'eux. Allez voir, si minable et si vaincu, j'oubliais de philosopher davantage sur le plus ou moins de bonheur du ménage dans l'intimité duquel j'allais voyager. Je ne suis certes pas de ceux qui mettent les souffrances de la chair au-dessus des souffrances morales, dans l'échelle des épreuves humaines. Je sais qu'une femme jeune, jolie et comblée peut connaître dans son luxe les agonies du cœur qui égalent en intensité les plus cruelles agonies physiques. C'est un fait, pourtant, que l'être atteint dans son corps émeut nos nerfs quand il est là, sous nos yeux, d'un frisson qui ne nous permet plus de plaindre autant celui qui souffre dans sa pensée. Tel est le cas des médecins, que le récit de la pire détresse morale laisse d'ordinaire parfaitement insensible. Leur charité demeure ouverte à la créature qui a soif, qui a faim, qui saigne. Elle est fermée à la douleur qui regrette, qui se repent, qui désespère. C'est qu'on ne peut pas douter de la détresse physique. Et l'autre détresse, celle de l'âme, est toujours suspecte d'imagination. Madame de Maigret pouvait être. Elle était beaucoup plus malheureuse que ma sympathie ne l'avait soupçonné. Mais je ne voyais pas ce malheur. Au lieu qu'au premier regard jeté sur ces victimes de la terrible guerre coloniale, j'avais vu leur souffrance, et j'en avais eu mal moi-même, jusque dans ma chair. Cependant, la sirène avait sifflé, et le bateau s'était ébranlé. Nous avancions d'un mouvement rapide qui disait la vigueur de la machine emprisonnée dans ce rafiot, comme l'avait irrévérencieusement appelé Maigret. La Perle était un ancien yacht de plaisance construit en Angleterre. Ainsi l'attestait le « Built in Glasgow », encore inscrit à son arrière. Elle gardait de sa noble origine de réelles qualités de vitesse et de bon équilibre. Le capitaine, piqué par les reproches de mon compagnon, tenait sans doute à lui prouver ce que valait son bâtiment, dont il avait l'orgueil, comme tous les vrais marins, car je l'entendis qui disait au comte « Vous ne trouverez pas un bateau qui vaille la Perle, de Gênes à Marseille, quand elle est bien lestée, comme aujourd'hui, et qu'elle a cette petite brise. Si ma compagnie ne me mesurait pas le charbon, nous serions à Port-Cros en une heure. Nous avons passé l'autre semaine par une tempête quand l'escadre ne voulait pas sortir. Mais aujourd'hui, quel temps! Et vous pouvez faire le tour du monde. Allez, monsieur, vous ne trouverez rien de plus régalant que cette côte. » Quoique la phrase sur l'escadre attestât chez le brave commandant de la Perle, malgré ses yeux bleus d'homme du Nord, une large dose de fantaisie marseillaise, il ne mentait pas en célébrant la magnificence de la rade par cette glorieuse matinée. Les malheureux soldats m'avaient fait oublier la jeune comtesse, et ce spectacle me faisait oublier maintenant les malheureux soldats. Au fond, les montagnes qui enserrent Toulon dressaient leurs masses nues, âpres, arides, noires par place d'une végétation brûlée, grises de pierre et comme écorchées à d'autres. Partout, sur l'eau moirée de l'immense bassin, des vaisseaux de haut bord surgissaient. Ici d'anciennes frégates à plusieurs ponts, peintes en gris et tristement dématées. Là, des cuirassés modernes et des torpilleurs sombres avec leurs silhouettes d'usines scientifiques. Des canots glissaient, volaient, entre ces vaisseaux et le port, montés par des matelots en uniforme qui manœuvraient leurs 12, leurs 24 avirons avec une précision miraculeuse. Les rames se levaient et s'abaissaient sans que l'une dépassât l'autre, et les canots semblaient avoir deux ailes, comme les blanches mouettes qui passaient et repassaient, fouettant l'air bleu de leurs plumes souples à pointes noires, dont on croyait entendre le frôlement. Quelques-unes plongeaient en jetant un cri aigre comme une plainte. On les voyait qui, de leur bec agile, piquaient dans la mer quelques débris, puis elles repartaient d'un irrésistible élan. D'autres, repus, nageaient comme des cygnes et se laissaient bercer au remous des embarcations qui les croisaient sans les effrayer. Lorsque la Perle eut franchi la passe que garde le fort de l'Aiguillette et viré de bord dans la direction du cap La Malgue et du cap Brun, une ligne de côte commença de se déployer, aussi lumineuse, aussi élégante que si de vapeur, au lieu de naviguer de Toulon à Porquerolles, fût allée du Pirée à Chalcy ou de Nopli à Catacollo. La noble arête des montagnes continuait de se dessiner, sèche et blanche sur l'azur profond du ciel. La mer frangeait les criques d'un ourlet d'argent, et c'était, entre les rochers rouges de ces petites anses et les premiers contreforts de la montagne, une onduleuse végétation d'oliviers, de pins, de chênes-lièges, semée de villas peintes et de bastides. La mode n'a pas encore touché, heureusement, cette région de la Provence, qui conserve, jusqu'à l'étrange presqu'île de Gien, projetée en forme de T, sa jolie physionomie sauvage, cet inexprimable charme d'une autre Grèce, aussi claire, aussi gracieuse dans sa rudesse rocheuse. Une colonnade ruinée sur ses hauteurs, et l'illusion serait complète. Tant ce ciel et cette mer, ces montagnes et ces grèves, ont la même nuance de lumière transparente que l'Attique ou que le Péloponnèse. Et tout autour, ce même air vibrant, subtil, alerte, qu'il suffit de respirer, croirait-on, pour être gai de la gaieté légère des Grecs et des Provençaux. Il était écrit que ce rayonnant paysage s'associerait pour moi à des incidents d'un ordre tout autre, et que j'éprouverais une fois de plus, dans ce cadre de nature païenne, des impressions peu compatibles avec cette gaieté-là. Au fond, sera-t-elle jamais vraiment la nôtre, à nous, les enfants compliqués du Nord? À un moment, et comme je me retournais pour contempler la haute mer, j'aperçus Madame de Maigret, seule, à l'autre extrémité du bateau. Elle était debout, accoudée contre le bastingage, à quelques pas du groupe formé par les quatre rapatriés qu'elle regardait avec une attention singulière. Ceux-ci ne paraissaient d'ailleurs pas plus douter de cette attention que du radieux horizon éployé autour d'eux. Ils demeuraient assis, accroupis plutôt, sur leur sac, tel qu'ils s'étaient affalés à l'arrivée. Leur visage épuisé montrait cette même impassibilité amère et insouciante qui m'avait tant frappée. Il était trop naturel qu'une femme jeune et délicate en fût frappée davantage, surtout appartenant à la classe sociale de celle-ci et à ses habitudes. Il est si rare que dans un certain milieu de luxe, une grande dame réalise jamais, d'une manière concrète, la féroce inégalité du sort. Enfant gâtée du monde et qui jouit naturellement d'une atmosphère de serre chaude autour de ses plus légers et de ses plus complaisants malaises, comment ne serait-elle pas saisie d'un remords quand elle constate de ses yeux qu'il existe pourtant des êtres humains, ses semblables, qui ne dorment pas dans des lits, qui ne vont pas dans le midi l'hiver, dans les Alpes l'été, mais qui subissent tantôt la dureté de l'hiver glacial, tantôt l'ardeur d'un été torride sous des climats meurtriers. Des êtres qui vont et qui viennent, non pas où les mènent leurs caprices, mais où les envoie une discipline implacable, sans argent dans leurs poches, sans affection auprès d'eux, sans foyer, comme des esclaves temporaires, mais comme des esclaves tout de même. Je crus discerner cette pitié dans l'attitude attristée de la jeune femme. Elle contrastait de nouveau d'une façon saisissante avec la jovialité de son mari. Celui-ci, dont j'entendais résonner la grosse voix, était dans la cabine du capitaine avec lequel il s'était réconcilié. Le cigare que fumait le brave marin, pareil à celui du comte, attestait cet accord. Penché sur une carte de la côte, ils buvaient de l'eau-de-vie en causant. Leurs paroles m'arrivaient, coupées par les saccades de la machine, et les noms d'animaux que je surprenais ainsi me prouvaient que Maigret questionnait l'autre sur les chasses de la contrée. Par un instinct de sympathie qui allait me mêler, sans que je m'en doutasse, à un secret très intime, je traversai le pont pour aller vers la comtesse. Je l'abordai en lui montrant le groupe des rapatriés et lui disant « Comme on voit qu'ils ont souffert, n'est-ce pas ?»« Oui, » répéta-t-elle, « comme ils ont souffert. On avait bien dit que c'était une dure campagne. Dieu sait par où ils sont passés. »« Voulez-vous que je les fasse causer ?» repris-je. « Nous en saurons plus par trois ou quatre phrases de ces pauvres diables que par tous les journaux. » « Je n'osais pas vous le demander, » répondit-elle avec un rien de rougeur aux joues et une expression que je devais mieux comprendre plus tard. Je n'y vis que la preuve de sa timidité native. Elle me connaissait si peu. Nous fîmes ensemble quelques pas vers les rapatriés. Ce fut un des artilleurs qui releva le premier la tête quand nous nous fûmes arrêtés près du groupe. « Vous êtes heureux d'être rentré en France ?» lui demandai-je. « Sûr que nous sommes moins mal que là-bas, » répondit l'homme. « Si seulement nous nous y étions battus. Mais vrai, ce n'est pas la peine de nous faire faire ces 22 jours de mer, à nous et aux pièces. Nous n'avons pas seulement vu l'ennemi. Sitôt arrivé, on nous a versés dans les tringlots. Et nous avons passé des semaines à voiturer des tonneaux de tafia entre Majunga et Andriba. 500 nègres et 200 mulets auraient suffi à cette besogne, et nous n'aurions pas enterré tant d'hommes dans les cimetières de Majunga et de Marololo. Sans compter, dit son camarade, ceux que nous avons jetés dans la mer Rouge, 40, rien que sur notre bateau, quand nous sommes revenus. « Vous aviez la chance encore de boire le tafia pour vous ravigoter, » dit le tirailleur en esquissant un sourire qui fit briller le blanc de ses dents entre les deux bourrelets décolorés qui lui servaient de lèvres. « On nous le rationnait à nous, ce qui ne nous empêchait pas de mourir comme des mouches. C'est nous qui avons commencé la route pour y faire passer les voitures Lefèvre. Quelle voiture ! Vous vous rappelez ? Toute cassée à la jointure du brancard et de la caisse. On les ratelait avec des branches d'arbres. Puis on finissait par les jeter, et on en brûlait le bois la nuit dans la montagne. Faisait-il chaud le jour et froid le soir. Et on mourait. Dieu, ce qu'on mourait !» Il haussa les épaules et retomba dans son apathie. Le quatrième soldat, le sous-officier de chasseurs, n'avait pas parlé. C'était un garçon aux traits assez fins, avec je ne sais quoi d'obscur et de presque féroce dans sa physionomie. Il nous avait regardés avec une sorte de rancune envieuse et une mauvaise lueur dans ses prunelles. J'aurais hésité à l'interroger si Madame de Maigret ne m'avait dit en anglais « Do you speak English ?» Et sur ma réponse affirmative « « Will you ask the first one about his life over there ?» me demanda-t-elle, d'une voix dont l'émotion m'étonna un peu, même à 7 minutes. « Et vous, chasseur ? » dis-je au sous-officier. « Est-ce que vous avez été aussi employé à voiturer le tafia et à faire la route ?»« Moi ?» répondit le jeune homme en haussant les épaules. « Pas même. Je n'ai rien fait du tout que d'être sous la tente. » C'était dur. 39 degrés à la place où nous posions notre tête. Et pas un arbre que des bananiers de ci et de là, qui ne faisaient pas plus d'ombre que mon bras. Et il l'étendit. Elle a commencé dans la plaine de Majunga, cette belle vie, pour continuer à Superbiville. En voilà une garnison. Le major a eu pitié de nous et on nous a fourrés dans les paillotes brûlées des habitants. On était un peu mieux. Mais quelle misère! Toute la journée à porter des malades sur les brancards. Il y en avait 500 à l'hôpital un moment, et 7 infirmiers pour les soigner. Pas de repos le jour à cause de la chaleur, pas de sommeil la nuit à cause des moustiques. Au commencement, on s'était dit « on aura chaud, voilà tout ». Et puis l'on sentait que cette chaleur n'était pas comme les autres. C'était quelque chose d'humide et de mou qui vous pourrissait le sang. On mangeait et la viande ne vous nourrissait pas. On buvait et l'eau ne vous désaltérait pas. Et puis, on devenait faible, faible, et on maigrissait. Alors la fièvre vous prenait, avec une espèce de délire. On se croyait au pays et on mourait. Ceux qui nous ont envoyés là mériteraient d'y aller, un mois seulement. Rien qu'un mois. Terre de malheur, ce qu'elle en a mangé de nous autres. » Le sous-officier ferma les yeux comme s'il voyait de nouveau l'affreux spectacle. Ses paupières baissées sur les globes saillants de ses yeux se détachèrent sur les méplats de son pauvre visage consumé. Pendant une seconde, il eut le masque de la mort. Nous en tressaillîmes d'horreur, Madame de Maigret et moi. Je vis ses doigts fins se crisper sur la poignée d'un petit sac de voyage en cuir vert qu'elle tenait à la main, et d'une voix encore plus basse, elle me dit, toujours en anglais, « Will you ask him if the officers were as badly off as the men ?»« Les officiers, » dit le chasseur quand je lui eus traduit cette question, « j'en ai enterré deux de mes mains sur quatre qui commandaient au camp. Et ceux-là, c'était des bons. Ils menaient la même vie que nous, et sous les mêmes tentes. Oui, nous en avons perdu deux, un capitaine et un lieutenant. Ça fendait le cœur de les voir marcher à la fin. Le lieutenant surtout, qui était un grand beau garçon. Il était devenu un squelette. On allait le renvoyer en France quand il a passé. Il était bien temps. » Je n'eus pas le loisir de me demander pourquoi ces détails nouveaux avaient produit une impression plus forte encore sur la comtesse, au point de la rendre presque livide. Car, juste à cette minute, la voix de Maigret nous interrompit brusquement. Il interpellait sa femme sur un ton de sécheresse irritée qui révélait trop son mécontentement de cette conversation. « Pouvez-vous me donner quelques minutes, ma chère Alice ?» avait-il dit. « J'y vais !» répondit-elle, cette fois d'un accent à peine perceptible. Et déjà, les deux époux étaient à l'arrière du bateau, qui échangeaient des phrases peu aimables, car la jeune femme se retira presque aussitôt dans la cabine des passagers, tandis que Maigret allumait un nouveau cigare, qu'il se mit à fumer en regardant obstinément l'horizon. Il était honteux d'avoir cédé en ma présence à un mouvement qui me semblait, je dois le confesser, moins brutal encore qu'énigmatique. Il n'était certes pas jaloux de moi. Ce qui l'avait froissé profondément, c'était donc que sa femme causât avec ses soldats. Je me rappelais soudain sa mauvaise humeur quand il avait appris que nous voyagerions avec des rapatriés de Madagascar. L'insistance émue de la comtesse pour que je questionnasse ces malheureux, le trouble où l'avait jeté le détail des misères de l'expédition, sa phrase sur les chefs, tout s'accordait pour donner un mot probable à cette énigme. Avec l'étrange facilité des romanciers à construire une histoire imaginaire et coupable sur des données par elles-mêmes innocentes, j'imaginais aussitôt un drame compliqué de passion mondaine. Madame de Maigret, follement éprise d'un officier, le mari sur le point de découvrir cette intrigue, le jeune homme parti là-bas pour Madagascar, d'où il allait revenir. Puis j'eus honte d'avoir admis seulement la possibilité d'une pareille aventure chez une femme de cette modestie et de cette piété. Je me dis que j'avais rêvé, qu'Alfred de Maigret avait tout bonnement parlé avec sa femme de quelques détails de ménage, qu'elle était rentrée dans la cabine pour se reposer, qu'il fumait sans bavarder parce que ma conversation ne l'intéressait guère, enfin que la curiosité de la comtesse à l'égard des rapatriés n'avait absolument rien de personnel. D'ailleurs, un incident d'un ordre plus positif survint tout d'un coup qui me bouleversa trop vivement pour me permettre une autre pensée. Mon saisissement fut si profond qu'à revenir, même en mémoire, à cette minute, mon cœur se serre. Les moindres détails de ce tableau ressuscitent devant mes yeux, comme si j'étais encore là, debout, contre la cheminée du navire, avec l'avant déployé tout entier sous mon regard. Je revois le mousse qui jouait avec un jeune chat, auquel il présentait et retirait un morceau de poisson. Le cuisinier chantonnant devant son fourneau, le capitaine et deux matelots gesticulant, et du doigt, il montrait un point sur la côte de Gien, toute proche. Et je revois surtout les quatre soldats, trois d'entre eux, de nouveau immobiles et muets, et le quatrième, le sous-officier. Ah, le quatrième, je le revois, épiant de sa prunelle aiguë si personne ne le surveille. Il n'aperçoit que des visages qui regardent ailleurs. La cheminée empêche qu'il me sache là. Son bras droit s'est levé comme pour s'appuyer à un paquet de cordes sur lequel je reconnais le petit sac de cuir vert oublié par Madame de Maigret. Le bras s'incline et le sac est renversé sur le côté. Un autre geste et le sac tombe entre le paquet de cordes et le bastingage. Un autre regard de défiance et de ruse et la main travaille derrière le paquet de cordes. La main se retire, elle vient d'ouvrir le sac et d'y prendre un objet de métal qui brille une seconde entre les doigts crispés. Est-ce un bijou? Un flacon? Une bourse d'or? Encore un regard, et très adroitement, l'homme a replacé le sac sur le paquet de cordage. Il a fait le geste d'être incommodé par le soleil, il a quitté sa place pour venir s'asseoir à l'ombre, pas très loin de moi, et je sens que j'ai détourné mes yeux. Le pourpre de la honte aux joues, la gorge serrée, comme si c'était moi le voleur et non pas lui, ce malheureux, ce mourant, qui vient de risquer le cachot, la compagnie de discipline, 10 ans de service à Biribi, comme ils disent, afin de s'approprier un bibelot quelconque et appartenant à qui? À une personne dans les yeux de laquelle il a pu lire une si délicate pitié pour ses misères et pour celles de ses camarades. 3. Il m'est arrivé, à 3 reprises dans ma vie, de surprendre un flagrant délit d'escroquerie. Et chaque fois, j'ai éprouvé ce mélange d'horreur et de pitié qui, sur ce pont de bateau et devant cette action, me paralysait tout entier. Il y a quelque chose d'affreux à tenir un homme en présence de soi qui vient de se déshonorer et qui ne peut nier ce déshonneur. Quand cet homme porte un uniforme, cette cruelle sensation est pire. On a beau savoir que la défaillance d'un individu n'atteint que lui-même, nous sommes si habitués à respecter, à vénérer la dignité de l'armée dans ses plus humbles représentants, qu'une vilenie commise par un soldat nous est une véritable consternation. Et celui-ci revenait de souffrir, de risquer sa vie pour le pays. La manière dont il avait parlé de la campagne et des officiers attestait des sentiments aigris, mais cependant si virils. À quelle aberration avait-il cédé en fouillant le sac de voyage de Madame de Maigret-Fajac? Et qu'allais-je faire? Laisser cet homme s'attribuer cet objet volé? Mais ce n'était pas seulement me rendre complice de son larcin, c'était contribuer à ce que les soupçons tombassent sur quelqu'un d'autre quand la comtesse s'apercevrait de cette disparition. Dénoncer le misérable? Mais c'était le perdre à jamais, alors que son vol pouvait être le simple égarement d'un cerveau perturbé par la fièvre et par l'anémie. Aller à lui, m'adresser directement à sa conscience, et sinon à sa terreur, lui dire « Je vous ai vu, rendez ce que vous avez pris ou je vous dénonce. » Oui, c'était la voie la plus sûre, la plus humaine à la fois et la plus juste. Pourtant, s'il se débattait dans une indignation feinte, s'il niait effrontément sa propre action, aurais-je le courage de le faire arrêter? Je passais un quart d'heure extrêmement douloureux dans cette incertitude, et quand je voulus en sortir pour exécuter la dernière de ces 3 résolutions, il était déjà trop tard. À travers le tumulte de mes idées, je n'avais pas observé que la femme de chambre de la comtesse était venue prendre le petit sac vert, puis qu'elle avait reparu sur le pont, et elle commençait de chercher partout, écartant les paquets de cordes avec ses mains, soulevant les paniers, se penchant ici, se penchant là, tant que le capitaine finit par s'en apercevoir, et il lui dit « Vous avez perdu quelque chose ?»« Oui, » répondit cette fille. « La bourse de Madame la Comtesse, une bourse en or, tout en maille, grande comme ça. Il y avait 2 billets de 100 francs dedans et 6 napoléons. Madame la Comtesse est bien sûre qu'elle l'avait sur le bateau. Elle a ouvert sa bourse pour compter cet argent, puis elle l'a remise dans son sac. elle est bien sûre de l'y avoir remise.
« Elle n'aura peut-être pas bien refermé ce sac, » dit le capitaine.
« En tout cas, si la bourse est tombée quelque part à bord, vous la retrouverez. Je suis sûr de mes hommes. On n'a jamais rien volé ni perdu sur la perle. Vrai comme je m'appelle, César Tournaire. » Et le brave marin commença de chercher à son tour. Quelques minutes plus tard, il avait communiqué la raison de sa recherche au cuisinier, qu'il avait communiqué au mousse, qu'il avait communiqué à l'un des matelots. La nouvelle était arrivée aux 5 ou 6 passagers en route pour Porquerolles, et le pont du bateau était maintenant rempli de dos penchés, de visages aux aguets, de bras fureteurs, et Maigret Fajac, revenu auprès de moi, me disait avec sa mauvaise humeur qui semblait éternelle quand il s'agissait de son ménage. « Voilà ce que c'est que de voyager avec des femmes. Elles trouvent toujours le moyen de perdre quelque chose. » Tandis que cette espèce de branle-bas improvisé bouleversait le pont, je regardais fixement le sous-officier de chasseurs. Pas plus que les 3 autres soldats, il ne prenait part à l'agitation générale. Mais sa façon de s'isoler de cette recherche contrastait trop avec l'attitude de ses compagnons. Elle seule, elle criait la faute. Ils suivaient, eux, avec leur même passivité presque enfantine, les allées et venues des chercheurs. Et cette passivité s'égayait d'un intérêt. Ils échangeaient des remarques. Leur visage exprimait une vague curiosité à demi amusée. Le voleur, au contraire, affectait de ne pas même voir ce qui se passait autour de lui. Ses prunelles semblaient fixées ailleurs, mais un peu plus de couleur à ses pommettes, une lueur d'inquiétude dans ses yeux, une tension rogue de sa physionomie, l'énervement surtout avec lequel il fumait une pipe qu'il venait d'allumer, décelait l'anxiété intérieure. La fréquence fiévreuse des bouffées, la crispation de ses doigts autour du tuyau, devaient le dénoncer à un observateur perspicace. Et malheureusement, ou heureusement, cet observateur existait dans la personne la plus déterminée par amour-propre professionnel à ce que la bourse d'or se retrouvât, le capitaine lui-même. J'avais bien remarqué à 2 ou 3 reprises que le regard pénétrant du loup de mer se posait sur le groupe des rapatriés avec une fixité particulière. J'avais surpris aussi quelques exclamations jetées en passant à l'adresse des 4 hommes. « Vous ne nous aidez donc pas, les militaires? Vous n'avez vu personne approcher du sac? Vous savez, il y aura une honnête récompense pour qui retrouvera le bijou. Vous êtes donc très riche que ça ne vous tente pas. » J'en avais conclu que l'actif marin, tout voisin du peuple et qui commandait son bâtiment en houseau de toile, jugeait un peu honteuse la paresse des 4 gaillards, affalés dans leur indifférence de messieurs au milieu du mouvement des autres. Je me trompais. Le subtil provençal étudiait ces gens, et je tressaillis d'un frisson de réelle terreur quand je l'entendis qui criait d'une voix retentissante « Allons, les rapatriés, levez-vous! Et vous, mes enfants ?» Il s'adressait à ses matelots. « Nous allons procéder au retournement de toutes les poches, puisque la bourse ne se retrouve pas. On va commencer par moi, pour que personne n'ait honte. T'es, Marius !» Et il interpellait le cuisinier. « Dépêche-toi de me fouiller !» « Le sous-officier est perdu, songeais-je, à moins qu'il ne soit assez adroit pour jeter la bourse à la mer. Mais le commandant ne le lâche pas du regard. Ah, mon Dieu! Et Madame de Maigret qui choisit ce moment pour sortir de la cabine. Quelle secousse pour elle d'assister à cette hideuse scène quand on va retrouver dans la poche de ce garçon la bourse volée. La silhouette élégante de la jeune femme venait de se dessiner, en effet, dans l'entrebâillement de la porte. Je ne pus me retenir de lui faire avec la main un signe pour qu'elle s'arrêtât. Et, marchant droit sur elle, « Madame, lui dis-je, ne venez pas sur le pont, je vous en supplie. On va fouiller tous les hommes et arrêter celui qui a volé votre bourse. » « J'espère bien qu'elle a été seulement perdue, » dit-elle vivement.
« Elle a été volée, » repris-je tout bas.
« Et par ce sous-officier avec qui vous avez causé tout à l'heure. Je l'ai vu, de mes yeux, qu'il la prenait dans votre sac. »«
Le chasseur ? » fit-elle.
« Ah, le malheureux !» Elle avait pâli sous le coup de ma révélation. Ses paupières battirent. À peine si j'eus le temps de saisir un passage d'hésitation sur ce délicat visage. Ses lèvres tremblaient un peu, tant elle se sentait nerveuse, mais une volonté résolue venait de monter en elle devant moi. « Voulez-vous me rendre le service d'appeler ma femme de chambre ? » fit-elle après une minute du plus angoissant silence.
« Vous êtes moins bien ? » lui demandai-je.
« Je suis très bien, » répondit-elle. « Mais vite, vite !» Et me regardant avec des yeux qui ne permettaient pas de lui désobéir, « Promettez-moi de dire à cet homme, avant qu'il ne quitte le bateau, que je lui donne la bourse, à condition qu'il fasse dire une messe pour ceux qui sont morts là-bas. Vous me le promettez ?»«
Ah, merci !»
insista-t-elle, comme j'inclinais ma tête en signe d'assentiment. Je vois encore la profonde lueur dont s'éclairaient ses beaux yeux, et j'entendis sa voix criant du plus loin qu'elle vit, la femme de chambre, quand je l'eus appelée.
« Thérèse, dites au capitaine que la bourse est retrouvée !»«
La bourse est retrouvée !» répéta la femme de chambre. « Quel bonheur ! Et où était-elle ? »
« Courez prévenir le capitaine !»
reprit madame de Maigret sans répondre à cette question, et avec la même voix qu'elle avait eue pour me parler, et les mêmes mots.
« Mais allez donc, et vite ! « Vite, il ne faut pas qu'on puisse soupçonner personne. »
4. Ai-je besoin d'ajouter que j'exécutais fidèlement l'étrange message dont m'avait chargé la jeune femme, et aussi que, du sous-officier et de moi, ce n'était certes pas lui le plus ému. Ce garçon ne répondit rien, et je crains fort qu'en le sauvant de la servitude disciplinaire que lui eût valu son vol, Madame de Maigret n'ait été aussi imprudente que généreuse. C'était sur le débarcadère de Porquerolles que je lui parlais ainsi. L'expression rogue de son visage creusé se fit plus rogue encore. Il haussa ses épaules d'un mouvement qui signifiait sa révolte aussi nettement que si sa bouche amère eût répliqué à la charité si spontanée, si noblement instinctive de la comtesse.
« Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?
Le véritable coquin n'a jamais de plus bas sentiments dans le cœur qu'en présence de certaines indulgences. Il y voit de la lâcheté, de l'hypocrisie, quelque chose surtout qu'il ne comprend pas et qui l'irrite à une place singulièrement profonde. » Pour s'en aller comme celui-ci s'en alla, son képi enfoncé plus avant, son bissac chargé sur son épaule d'un geste brutal, le profil insulteur, le corps plus déhanché, la jambe plus traînante, avec une allure soulignée de voyous et de guapes, il fallait qu'il n'en fût pas à son coup d'essai, et que la vie de garnison, puis la campagne coloniale, eussent fait de lui ce qu'elles font de ces gens-là quand elles ne les amendent pas, un véritable brigand. Le capitaine, qui le regardait partir, lui aussi, exprima tout haut ce que je sentais, et son exclamation me prouva une fois de plus la lucidité de son coup d'œil. Quand on pense que tant de braves garçons y sont restés dans cette dure guerre, et que de fortes têtes comme cette crapule en réchappent, si l'on n'avait pas retrouvé la bourse, je l'aurais arrêté sur sa gueule. Enfin, puisque cette bourse est retrouvée, les yeux bleus du vieux marin clignèrent ironiquement. À son tour, il haussa les épaules et se mit à chantonner entre ses dents, tout en vaquant à sa besogne. Il avait flairé la vérité. Mais que lui importait, du moment que la perle et son équipage demeuraient indemnes de soupçons. Qu'une jolie femme eût un caprice de charité, comme celui qu'il devinait chez sa passagère, il devait trouver cela un peu bien naïf, mais naturel. Pouvait-il, malgré sa perspicacité méridionale, soupçonner ce que moi-même, avec des données plus significatives, je compris seulement le soir, en bavardant avec mon hôte de Port-Cros. Le peu romanesque Arthur de Baltine, l'homme fusil comme on l'appelle à son cercle, car il est bien rare qu'il parle d'autre chose que de chasse ou de cuisine. Nous avions dîné en effet supérieurement dans l'espèce de tourne-bride du dernier siècle où il était installé pour la saison. Nous avions eu des rougets de roche, comme il n'y en a que dans ces criques perdues de la Méditerranée, des rennes d'eau plus fines que des bécassines, des artichauts du midi, tout petits, sans foin, si tendres que le cœur semble se prolonger jusqu'au bout des feuilles, des fraises du potager en février. Enfin, un chef-d'œuvre de repas rustique, relevé encore par un appétit de 12 heures passées en plein air, dont 5 sur l'eau. Madame de Maigret n'était pas descendue pour prendre part à ce modeste mais délicieux festin. Son mari l'avait excusée sur la fatigue du voyage. Mais sa mauvaise humeur, à lui, en s'asseyant à table, ne m'avait pas laissé de doute. Il soupçonnait la vérité sur l'épisode de la bourse d'or. Probablement, il avait demandé quelques détails, peut-être avoir le bijou. Et probablement aussi, par horreur du mensonge, Madame de Maigret lui avait dit sa pitié, sa peur d'être la cause d'une condamnation, son irrésistible et soudain parti pris de sauver le voleur. Elle ne s'était pourtant pas cru le droit de me mêler à son aveu. Le comte n'eût pas été à mon égard aussi indifférent qu'il le fut à ce dîner, durant lequel il mangea d'ailleurs comme s'il eût chassé tout le jour. Il buvait par grande rasade un certain vin rouge de Port-Cros, d'un bouquet pareil à celui du Château-Neuf des Papes, au temps où ce cru n'avait pas été touché par la maladie. Bref, en se levant de table, il était parfaitement gai. Nous étions tous sortis de la maison, le dit Maigret, Baltine, le curé de Lille qui avait dîné avec nous, et moi-même, afin de jouir de l'admirable nuit provençale, toute parfumée d'un arôme de rose, de narcisse et de violette. Nous suivions le sentier qui va vers la baie, en face du rocher de Bagot, avec une douce vallée autour de nous, cernée de hautes montagnes et comme floconneuse d'oliviers sous la lune. Maigret Fajac marchait avec le vieux prêtre. Il fumait un de ses forts cigares. Nous le voyons cheminer en avant de son pas lourd et nous l'entendions rire haut. Je sens encore le bras d'Arthur de Baltine prendre mon bras et il me dit en me montrant le comte « Est-il commun l'animal ? Et il aura fait encore ce soir quelque avanie à sa charmante femme. Il a toutes les chances avec cela. Il a bu comme un templier et demain matin, si vous croyez que son fusil tremblera, pas le moins du monde. » Il a brutalisé la comtesse, et si quelqu'un essayait de la consoler, ce qu'il serait ramassé. « Alors, elle n'a jamais fait parler d'elle ?» demandai-je à Baltine. Malgré moi, l'idée qui m'avait une minute traversé la tête venait de me ressaisir. « Elle ? » répondit-il. « Jamais. Et pourtant, à ma connaissance, elle a inspiré des passions folles, entre autres à ce pauvre Tilly. Vous ne l'avez pas connu ? Edgar de Tilly. Mais vous avez lu son nom dans les journaux ces derniers derniers. Il est mort de fièvre à Madagascar, où il avait demandé à partir, à cause d'elle. Et dans quelle arme servait-il ? Interrogeai-je. Il était lieutenant de chasseur. Un être délicieux, beau, élégant, brave comme une épée, et romanesque. Elle n'y a même pas fait attention. Et comme il l'aimait! Mais l'a-t-elle seulement su? Insistai-je. J'ai connu des gens qui disaient oui, d'autres qui disaient non, reprit Baltine. Moi, j'ai ma petite idée. Je suis convaincue qu'Edgar s'est déclaré un beau jour, qu'elle l'a tout simplement, pour parler français, mis à la porte. C'est le mot de son départ là-bas. Il faut pourtant bien l'expliquer, ce départ. Puis avec son ironie bon enfant. Il n'y avait qu'un seul homme capable d'être amoureux comme au temps des croisades, et il est allé tomber sur cette femme-là. Le ton avec lequel Baltine venait de prononcer ces derniers mots disait le mélange assez comique de respect et de regret que lui inspirait la vertu indiscutée de Madame de Maigret-Fajac. Il se tut, et moi je ne lui répondis pas ce que je pouvais lui répondre, ce qui m'apparaissait si clairement, tandis qu'il me parlait et que je me ressouvenais des divers incidents du voyage. J'aurais cru profaner, en les racontant, les mystérieuses émotions que je devinais chez cette femme si pure et si pieuse. Je regardais la pesante silhouette de ce butor de Maigret. Je me rappelais son irascibilité du matin et de ce soir, et je me disais que les jaloux ont parfois de bien étranges divinations. À moins que, par scrupule religieux, et pour mettre entre elle et le jeune homme quelque chose d'irréparable, la comtesse n'eût confessé à son mari la déclaration qu'elle avait reçue à l'époque où elle l'avait reçue. Alors, en osant sauver, comme elle avait fait, le soldat voleur qui avait vu mourir Edgar du Tilly, quelle preuve d'amour elle avait donnée elle-même au souvenir du jeune homme, mort là-bas pour l'amour d'elle, et qui n'en devait jamais rien savoir.